Et bonjour tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Pour tous ceux qui me rejoignent, voilà, je suis Bye Bye Patron, je suis notamment investisseur immobilier, investisseur dans plein de domaines. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez écouter mon épisode du 27 décembre, 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Et sinon, voilà, j'ai pour objectif chaque année de beaucoup voyager et c'est le cas. En ce moment, je suis à Madère, il fait beau, le soleil brille. J'ai pas encore été dans la mer, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça fait vraiment du bien en janvier de se sortir de la grisaille du reste de l'Europe. Et puis les gens, ils sont sympas, on mange bien, c'est pas cher. Voilà, la vie est belle, on se demande pourquoi est-ce qu'on passe pas l'hiver en entier sur place. Mais bon, en général, on a pas mal d'autres choses à faire pour faire des gros billets. Voilà, l'an dernier, j'avais pour objectif d'aller dans 10 pays par an. Cette année, je pense que ça va être pareil. Et pour les investissements, je vous avoue que je suis en plein la tête dedans dès lors que je ne suis pas en vacances. Et donc, on verra pour le décompte. Et quand on est investisseur notamment, et ben même si on est au soleil, voilà, il y a des moments où il faut un peu travailler. J'ai payé mes concierges, on a fait un super mois de décembre sur un appart là. Vous savez, on parle en renta, je pense qu'on a fait 3% de renta en un mois. sur un appart en LCD. Donc, merci aux concierges. En plus, ils ont géré. Il y avait une fuite d'eau dans un des appartements. Donc, c'est normal de les payer super rapidement. Pour le reste, ben voilà, je suis en train de meubler deux appartements et de finir les chantiers. Je vous avoue que je m'en occupe également. Et puis, à ce podcast, hein, j'ai commencé à 8h30 du matin à faire cette petite intro. C'est comme ça. Voilà, on ne s'arrête pas quand on aime ce qu'on fait. Et ben, c'est jamais du vrai travail, mais c'est sûr qu'il faut y consacrer du temps. Cette semaine, on a pas une invitée, mais deux invités, à savoir Corinne et Mélanie, plus connues sous le nom des Comelles sur les réseaux. J'ai pu croiser deux fois Corinne sur des événements, c'était à Bordeaux, puis c'était au repas des gentlemen, mais c'était vraiment très très rapide. Donc là, voilà, on a eu un peu plus de temps pour discuter des projets. Vous remarquerez que chez Bye Bye Patron, il y a zéro discrimination. Le seul point qu'il faut, c'est faire des gros billets. On a eu des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des personnes de partout dans le monde. On a été en Argentine, à Dubaï, au Cambodge, en Tunisie, en Hongrie. Voilà, si vous avez des investisseurs aux quatre coins du monde, on a été aussi au Canada. Et d'ailleurs, mon associé, avec qui on s'occupe du Club Invest, il est en train d'acheter un appartement au Canada. Donc maintenant, le Club Invest, donc pour ceux qui ne le savent pas, Club Invest, c'est on a un petit groupe d'une dizaine de membres maximum. Avec qui, enfin, on les aide à qui on aide, voilà, et on accompagne pour acheter des biens immobiliers. Et donc maintenant, le Club Invest, il est dans trois pays, enfin, sous peu, il sera dans trois pays. Voilà, on sera investisseur, Michel et moi, en tout, dans trois pays et dans je sais pas combien de villes, mais dans pas mal de villes, à la ville, à la montagne, dans plusieurs endroits. Donc c'est top, ça fait plaisir. Hein. Bon, après le Canada, je le laissais à Michel parce que moi, le froid, c'est pas trop mon truc. Voilà. Par contre, si vous connaissez des investisseurs francophones, je précise, qui sont investisseurs à l'étranger, eh ben, j'adore toujours prendre connaissance des marchés, des spécificités. Donc, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait super plaisir. J'ai pas eu d'investisseurs en Suisse. Je sais que c'est compliqué, par exemple. L'Espagne, j'ai un épisode dans les tuyaux. Ça fait longtemps et il va bientôt être publié. Mais voilà, j'avais décidé de. Il rentre pas dans ma grille de programmation pour le moment et surtout il faut que je le réécoute en entier pour faire des petites coupes et voilà donc si, ou au Portugal, ben là je suis hein. Donc si vous avez des investisseurs au Portugal, en Afrique, en Asie, que sais-je, voilà, ça m'intéresse. Donc on va voir avec Corinne et Mélanie, on va voir plein de trucs parce qu'en fait elles ont dit bye bye patron, enfin elles ont vraiment pas mal d'activités et c'est très très intéressant de voir leur père comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles fonctionnent également avec leur conjoint. C'est toujours un point qui est critique hein. Quand on est investisseur, il faut que le conjoint il soit au moins pas un frein, si ce n'est qu'il vous accompagne, c'est l'idéal. Et ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, je rigole, j'ai d'autres trucs à vous dire. Déjà, merci pour l'épisode de la semaine dernière que j'ai publié avec Paco. J'ai eu beaucoup de retours. Pas mal d'auditeurs, je pense, apprécient Paco. Et à juste titre, hein, il est vraiment... Je pense que c'est vraiment une personne qui est... Bah, il est franc, il est transparent, il est honnête. Il est aussi sur pas mal de secteurs d'investissement. Enfin, il a des invités qui sont sur des secteurs assez spécifiques. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de partages en story. Le problème des stories, je sais pas si vous le savez, mais c'est que c'est impossible à retrouver quand j'ai été tagué. Et donc, quand je suis à droite, à gauche, eh ben, j'ai pas toujours l'historique. Par contre, j'ai eu 2 avis sur Apple Podcast. Merci à Amisad. Les podcasts de Bye Bye Patron sont d'une grande valeur. Bravo à toi. Et ben, bravo à toi pour ce super commentaire. Et de Antoine Blanc, de loin, mon podcast préféré sur l'investissement immo. Si vous voulez entendre votre nom, que votre nom soit entendu par des milliers de personnes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez sur Apple Podcast, vous me laissez un commentaire. Sinon, 5 étoiles sur Spotify. Merci à tous, ça fait toujours super plaisir. Et j'ai eu aussi des petits messages privés, notamment de Senta Boy 27. Il avait aussi un business de vélo comme moi dans l'épisode dont je vous parlais sur les 1 million. Merci également à Iselis Pessoa, voilà, qui m'a fait un bon retour sur les podcasts. À Grégory PRT qui suit mon conseil de toujours relancer les gens quand ça avance pas. Il faut vraiment que vous deveniez leur premier problème et leur principal problème. Et c'est comme ça que c'est comme ça que ça avance souvent. Et à Jean-Jean qui m'a convié à ce que on se rejoigne en voyage. Il est libre géographiquement. Il m'a dit, tu me rejoins quand tu veux, où on se rejoint ensemble. Eh ben, écoute, ça va faire super plaisir. On va essayer de s'organiser ça à un moment, mais au soleil, hein, pas par la neige ni sous la pluie. Voilà. Et voilà, avant de démarrer, si vous voulez faire des gros billets avec moi, enfin tout seul, mais avec moi, voilà, vous avez compris, vous allez sur mon site www.grosbillets, bien sûr, au pluriel.com. Vous avez le lien dans la description du podcast, lien dans ma bio Insta. Et puis sinon, vous m'écrivez un message et je vous transfère le lien. Vous avez ma formation négocier pour faire des gros billets. Mon autre formation, un dossier bancaire en béton. Les deux, elles coûtent moins cher qu'un billet EasyJet. Elle est pas belle la vie. Et en plus, c'est un pré-anniversaire parce que je vous l'ai pas dit, mais la semaine qui va, durant votre semaine d'écoute, ce sera mon anniversaire. Voilà. Et dans les deux formations, ce qui change par rapport aux autres formateurs, déjà, bah, vous le savez, hein, c'est que bah, déjà, j'achète vraiment des biens. C'est pas comme tout le monde. Et en plus, vous pouvez m'appeler gratuitement une fois, c'est inclus. On peut discuter de votre projet, on peut discuter de votre stratégie de négociation. Parfois, il faut négocier, parfois, il ne faut pas négocier. Cette semaine, on a Damien du Club Invest. Là, il a sûrement trouvé un bien. Ça fait quelques semaines qu'il cherche. Là, il a eu une opportunité à un prix inférieur au prix du marché pour un bien refait. Donc, on s'est mis d'accord tous les deux pour qu'il ne négocie pas. Parfois, il ne faut pas négocier, il faut juste y aller quand c'est rentable. C'est moins cher que tout le reste des biens que vous avez visités. Parfois, on peut négocier quand même, mais c'est rare. Et souvent, bah, il faut pas négocier si c'est déjà une bonne affaire à la base. Voilà, on va pas essayer de gratter encore 1000, 2000, 3000 euros pour ensuite qu'elle nous passe sous le nez. Enfin, chacun ses objectifs. Si vous pouvez acheter qu'un bien, bien sûr, il faut le poncer au maximum. Si votre stratégie, c'est d'en engranger au moins un pour commencer, puis après on voit, ou alors d'en engranger beaucoup par an, comme moi, j'avais pendant des années de 5 biens par an. Et ben dès que c'est rentable, hop, on achète et puis après on verra. Voilà, intro, je voulais qu'elle soit super courte, quand même 8 minutes 20. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Corinne et Mélanie. Comme toujours, vous pouvez me faire un retour, noter sur Apple Podcast, partager en story, ça me fait super plaisir. Et la semaine prochaine, je vous le cache pas, vous êtes pas au courant, mais ce sera l'épisode 100. Et donc forcément, on aura des invités très spéciaux. L'épisode est planifié, mais pas encore enregistré, il sera enregistré la veille de mon anniversaire. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et une très bonne semaine. On se retrouve de l'autre côté avec Rémi. Et bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, que j'ai un épisode à 3. Donc j'en ai fait en live à plus que ça, j'en ai fait à beaucoup à moins que ça. Donc on est accompagné de Corinne et Mélanie, et qui est comme elle sur les réseaux. Comment ça va?
Hello, ça va.
Ça va, on est en forme.
Ouais. Ben voilà. En plus, vous faites d'une pierre deux coups, parce que moi j'essaye un peu de respecter une sorte de parité. J'ai aussi des invités de partout dans le monde, et bien sûr, des femmes, quand on est un homme, on a plutôt un cercle d'hommes. Donc quand j'ai des femmes, je suis content. Cette semaine-là, l'épisode qui a été diffusé, c'était avec Amani, je pense que vous la connaissez. Et là, voilà, d'une pierre deux coups, d'un coup, c'est bon, j'ai deux femmes, donc je vais avoir deux points de vue. deux points de vue, voilà, ça fait toujours, c'est toujours utile, je trouve, d'échanger. Chacun a un peu sa sensibilité. J'aime bien pour commencer, vu que le podcast s'appelle Bye Bye Patron, que les invités racontent une petite expérience insolite professionnelle qui serait pas fait forcément ou qu'elles n'auraient pas fait toute leur vie. Donc, je sais pas. Mélanie, si tu veux commencer. Ouais.
Je vais démarrer. Donc déjà, merci pour l'accueil. Alors, pour la petite histoire insolite, moi, j'ai testé pas mal de petits business parallèles pour me faire des revenus complémentaires, dont un que je peux partager aujourd'hui. Avec ma sœur, je m'étais associée pour faire des petits biscuits personnalisés. Donc, c'est très cool sur le papier. On s'est dit, allez, vas-y, on lance notre première commande. On a eu deux ou trois commandes avec des clients. On était très contents. Et en fait, au moment de produire les biscuits, donc ma sœur est pâtissière, donc c'est elle qui produisait les biscuits, mais il fallait bien que quelqu'un les emballe. En fait, c'est tout bête, mais on avait une grande, grande table à la maison et on avait, je sais pas, une centaine de biscuits à devoir emballer un par un. Et en fait...
Ah, un par un en plus. Ah oui, parce que c'était personnalisé, forcément.
Tout à fait, à la main, sans machine, sans rien. Et là, tout de suite, j'étais en mode automatisation. Je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir faire ça toute ma life, c'est pas possible. Et malheureusement, j'ai tenu le business 3 semaines.
Du coup, ah bah voilà, 3 semaines.
Voilà.
C'est vrai que les boulots à la main. Moi, j'avais fait un job d'été. C'était chez un mandataire, le judiciaire, qui liquidait les sociétés. Et je devais envoyer 2000 lettres à tous les créanciers pour dire qu'ils n'auraient pas d'argent. Donc, je devais la plier en trois, la mettre dans une enveloppe. Après, j'avais plus de peau sur la phalange, là. Enfin, horrible. Donc, voilà, c'est sûr qu'on n'automatise pas. Voilà. Et toi, Corinne, t'as un petit métier? Toi, c'était plus récemment, non?
Ouais. En fait, alors j'arrivais plus à souvenir si c'était fin 2020 ou fin 2021. On s'est rendu compte avec nos petits calculs du comptable qu'on allait passer LMP. Et du coup, avec mon chéri, on s'est dit, bon, pour pas passer LMP, on va augmenter nos revenus. On s'est mis à prendre des petits boulots d'intérim en plus de notre job. C'était fin 2020, je crois. Et du coup, on est allé bosser à l'OL, puisqu'on vit à Lyon, donc l'Olympique Lyonnais, qui en fait a une énorme boutique qui vend plein de produits dérivés. Enfin, t'imagines même pas le nombre d'articles qu'ils vendent et de références. Et donc, c'était pour le Black Friday. Et donc, c'était pas de nuit, mais à 3 ou 4 heures du mat, on commençait.
Fallait mettre en rayon, quoi. C'est ça, je pense.
Ouais. Non, tu prépares les commandes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu reçois une commande avec des références, tu vas dans les rayons chercher les références, en sachant que, genre, il y a 1 million de t-shirts différents, donc faut pas te tromper de références. Et après, tu emballes. Donc, tu emballes dans des sacs plastiques, tu emballes dans des cartons, tu emballes dans plein de trucs différents, et tu affranchis, et ça part à l'expédition. Okay. Voilà. Donc, j'ai fait ça plusieurs nuits de suite. Donc, la première nuit, ça va. Au bout de la troisième nuit, t'es complètement cramé. Ouais, 3 heures du mat. Donc, voilà.
Donc, les métiers manuels, visiblement, c'est pas trop notre truc.
J'aimais bien, mais par contre, l'horaire me l'est un peu moins bien, quoi.
Ah, c'est ça, t'es éclaté. C'est vrai que les gens qui veulent changer de vie, tu te dis, ouais, quand t'as un métier, tu peux faire le soir, tu peux faire essayer de créer ton business à côté, mais il y a des métiers, t'es juste mort, hein. Tu rentres, t'es mort, même ceux où t'es tout le temps debout, tu marches tout le temps, même quand t'es vendeur ou quoi. J'ai fait ces jolis métiers d'été, je me souviens que le soir, je faisais pas le malin. Hein. Donc, ouais. Mais du coup, c'était tout pile, quoi. Le LMP, LMNP, c'était... Ouais, c'est vrai, quand t'as des locations longue durée, t'arrives à bien estimer facilement.
Ouais. Hein, comment tu vas. On connaissait notre point d'atterrissage. Et du coup, voilà, j'ai fait ça et j'ai fait comme toi, j'ai fait un peu de secrétariat dans une boîte à côté de chez moi et j'ai mis des papiers dans des enveloppes, pareil. D'enveloppes sur la table entière et je me disais, mais j'en sors pas. Tu sais, genre, tu prends une ramette de papier, ça fait 500 pages, tu mets ça dans les enveloppes et tu mets une pile d'enveloppes toute ta journée, tu dis, c'est passionnant.
Et ouais, il faut tout. Et puis aujourd'hui, vous faites autre chose, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes sur le podcast? Pas pour vos talents d'emballage de biscuits.
Moi, pour être transparente, c'est Coco qui m'a dit, viens, on va participer à son podcast, c'est génial.
Ah, bah ouais.
Donc déjà, merci. Mais oui, je pense qu'on est ici parce qu'on est investisseuse et que c'est important aussi qu'on puisse partager nos expériences si c'est OK pour toi, quoi.
Bah, bien sûr, hein. On est là pour ça. Donc, vous êtes investisseuse et toutes les deux, depuis combien de temps?
Moi, j'ai commencé en 2018 les investissements immobiliers.
Et moi, j'ai fait mon premier achat en 2009.
Ok, donc ça commence à...
Ça commence à dater.
2009, voilà. Tu l'as encore?
Non, c'était ma résidence principale et je l'ai passé après en location meublée. LMNP, et après je l'ai revendu.
Ouais. Parce que c'est vrai que 2009, parfois ça paraît hier. Tu te dis, ah, mais en fait j'aurais remboursé plus de la moitié de l'emprunt maintenant. Sauf que bah, moi c'est pareil, les biens que j'ai achetés il y a 10 ans, je les ai revendus. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a pu acheter beaucoup de locatifs après, hein, en payer les apports, payer les travaux. Ok, top. Et en plus, vous avez deux activités chacune. Chacune, hein.
Ouais, ouais. Alors. Vas-y. Commence, allez. Effectivement, moi j'ai deux sociétés. Donc la première, c'est Investir comme elle avec mon associée Mélanie qui est ici présente. Et on accompagne essentiellement les femmes à investir dans l'immobilier, à se créer des revenus complémentaires, voire à vivre de l'immobilier. Après, ça dépend vraiment de l'objectif de chacune. Donc on fait
des accompagnements personnalisés.
Individuels. Voilà. Et après, j'ai ma deuxième boîte, Eosis, où, pendant 5 ans, j'étais maître d'œuvre. Avant, j'étais salariée, directrice d'agence pendant 10 ans et ensuite à mon compte, mais j'ai fait pendant 15 ans au total, du coup. J'étais maître d'œuvre, assistant maîtrise d'ouvrage et contractant général dans le tertiaire. Donc, tout ce qui va être bureau, agence bancaire. Et après, je voulais ma liberté géographique et gérer des chantiers à distance, j'ai pas trouvé la solution.
Non, on peut pas.
Piloter les travaux, donc voilà, il faut un minimum être là quand même pour regarder ce qui va pas et le faire corriger. Du coup, je me suis réorientée dans ce que je savais faire, qui est vraiment toute la partie organisation, structuration. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à se développer, mais vraiment sur la partie mise en place de process, recrutement, planning, budget, enfin tout ce qui va faire
structurer et scaler la boîte.
Ouais,
okay. Voilà. Pour les entrepreneurs qui sont les solopreneurs, comme on appelle ça.
Essentiellement les infopreneurs, donc les entrepreneurs pardon, qui sont en ligne, enfin qui bossent en ligne, parce que comme ça me permet de bosser avec n'importe qui, n'importe où, et de pas avoir de contraintes géographiques.
Ok. Top. Bah, j'ai une première question pour vous, c'est par rapport à vos coachés, parce que mon associé qu'on embrasse et tous nos membres du club Invest, donc nous on accompagne aussi plutôt des débutants, mais il y en a qui ont déjà des biens. Et est-ce que vous pourriez me dire peut-être les biais, alors bon, chacun après a sa vision de l'investissement, des bons investissements ou non. En fait, nous, de ce que j'ai pu voir chez nos membres, hein, qui réussissent, qui ont tous réussi à trouver des biens. Mais en fait, il y a deux biais. Il y en a qui ont peur de tout et il y en a le plus souvent. Alors, c'est chez les hommes en tout cas, peut-être les femmes, c'est différent. C'est un peu des têtes brûlées. Donc, qui ont pas d'appartement et qui vont sur des immeubles où il faut tout refaire. Peut-être qu'il y a, nous, on essaye un peu alors, de les orienter. D'abord voir si ça te plaît, mettre des travaux qui sont à ton échelle et tout ça. Dans quel état d'esprit elles sont vos coachées quand elles arrivent, et est-ce que vous voyez un peu une sorte de de ce type de biais?
Oui et non. Alors on a des femmes pour la plupart de nos coachées, hein,
oui,
c'est quasiment
la majorité
que
c'est des femmes, mais quelques hommes. La majorité c'est des femmes.
On en a quelques-unes qui sont tête brûlée.
Quand même, hein.
On en a quelques-unes qui sont tête brûlée quand même, mais tu sais presque quand tu démarres, c'est un peu l'inconscience du débutant. Mmh. Tu sais, tu poses pas de questions, tu dis bah vas-y, je vais sur le premier bien que je vois et je me pose pas de questions.
Je veux aller vite, je fais une offre d'achat. Allez.
Voilà.
Et après, en fait
la renta, elle est pas au rendez-vous et là on se dit ah merde, bah en fait ça va pas. Mais c'est pas grave parce que ça permet de tester aussi, de se lancer, parce que quand on est trop timide et qu'on a peur, qu'on reste dans les doutes, etc., ben on passe pas à l'action et ça met un peu plus de temps. Donc, on a aussi ce deuxième type de profil qui va être plus sécuritaire, je dirais.
Mmh. Qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin que tout soit validé. Et je pense qu'en proportion, on a quand même plus de personnes qui sont comme ça que tête brûlée.
Que tête brûlée, ouais. Tout à fait.
Ah bah cool. Et elles achètent, c'est quelle typologie de biens? Elles achètent de tout, des immeubles, des apparts, des maisons, qu'est-ce que...
Alors, on a eu plutôt des appartements pour l'instant, mais on en a une ou deux qui vont sûrement acheter des immeubles, voilà.
Ok, top. Ouais, c'est intéressant d'avoir un peu le...
On accompagne les débutants. Oui. Donc, ouais. Les têtes brûlées qui arrivent et qui se disent « Ok, je vais acheter un immeuble de 10 lots », c'est pas la majorité
non.
quand même.
Ouais, non, bien sûr.
Je veux commencer petit, par un petit studio.
Un petit appart.
Et là, tu dis, ouais, ok, mais si t'achètes un studio, le prix au mètre carré, forcément, est moins intéressant qu'une grande surface. Donc, peut-être pouvoir un peu plus grand ou pouvoir diversifier en exploitation également. Donc, voilà, c'est plutôt des gens qui vont commencer un peu petit, on va dire.
Ouais. Ouais, c'est ça, nous, on est plutôt dans un peu la nuance, quoi. Enfin, ouais.
Ouais, bah. Du coup, parce que tu t'es pas présenté, toi.
Ah, ton job,
je sais
pas. Ah, bah ouais, bah oui.
Il y a pas de souci.
Tu faisais quoi comme boîte, je me suis en train de me dire.
Alors oui, donc pour revenir.
Après avoir vendu la franchise de biscuiterie.
C'est ça. Parce qu'en fait, c'est une femelle. En fait, elle emballe des biscuits.
Oui, après 3 semaines d'activité à fort développement, j'ai décidé de revendre la boîte. 0 €. Voilà. Non, sans déconner. Du coup, moi, j'ai 2 boîtes. Donc, j'ai aussi la boîte Investir comme elle. Donc, on est associés 50-50 sur cette boîte. Et ensuite, j'ai une autre boîte qui s'appelle eWell, où je fais de la prestation de service du closing pour des infopreneurs. Voilà, et après j'ai l'immobilier également à côté qui me rapporte pas mal de sous-sous aussi, voilà.
Bah cool, hein, on est là pour ça, les gros billets. Bah top, bah on peut parler un peu de vos, bah on peut continuer avec toi du coup. T'as quel type de biens? Comment
alors,
tu les exploites?
Ouais, j'exploite, j'ai 3 colocations sur Lyon et un garage. C'est vrai que je l'oublie tout le temps, ce garage. J'ai un garage.
Pourtant, ça tombe, hein. C'est un peu, ça fait plaisir, quoi. C'est toujours,
C'est la petite somme en plus qui fait plaisir. Ouais.
Tout à fait, tout à fait. Puis, mine de rien, si tu le revends, bah, ça fait un petit billet de 15 000 qui rentre dans la poche. Donc, c'est cool. Et ensuite, j'ai un immeuble de rapport à Mâcon, qui est une commune au nord de Lyon. Et là, je suis en train de faire l'acquisition. Je touche du bois. Je suis encore sur l'attente de, voilà, je suis sur le financement, l'attente des offres d'achat d'un immeuble de 5 lots.
Ok. Et à Lyon, il y a des plafonnements. Je connais pas bien. Il y a des pour les colocs. Il y en a.
Qui fâchent tout de suite. Comment ça se passe? Ouais, tout à fait.
Il y a encadrement des loyers.
Il y a un encadrement des loyers qui est tombé. Ça nous fait pas trop plaisir, mais effectivement, ça fait partie du game maintenant.
Ok. Et c'est par rapport à la surface de l'appartement, c'est pas par chambre et tout ça.
Ouais.
Et c'est un encadrement, enfin, c'est un prix qui est fixé par mètre carré ou c'est tu peux pas augmenter ton loyer de plus que tant? C'est par mètre carré. Hein.
Oui.
Ok, donc il faut déplacer l'immeuble à Vénissieux ou à.
C'est ça la technique.
Et c'est des 3 chambres, hein, tes colocs.
Ah, mes colocs. Alors, mes colocs, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3.
Ok.
Voilà.
Et t'as combien de salles de bain à chaque fois? Une, je suppose.
Alors pour celle de 3, j'en ai 1, et pour celle de 4, j'en ai 2.
Ok. Donc c'est intéressant de voir parce que c'est toujours c'est compliqué de trouver des biens avec tu l'as créé la deuxième salle de bain ou elle était déjà.
La deuxième salle de bain c'était une grande chambre et du coup on s'est permis de créer effectivement une chambre avec salle de bain du coup.
Okay.
C'est vrai qu'à 4 sur une seule salle de bain, à moins qu'elle soit grande, mais bon, ouais, néanmoins, c'est un peu juste quand même.
Ah, c'est ça.
Tout le monde se lave les dents en même temps et tout le monde veut prendre sa douche en même temps, quoi. Donc, voilà.
Donc, ouais, 3, je pense, c'est la limite. J'ai entendu, bah, je crois que c'était ce week-end à Bordeaux, là, j'ai entendu quelqu'un qui avait une coloc de 4. Mais il disait, bon, voilà, après, c'est toujours une question de prix aussi, hein. Ça dépend du prix que tu proposes. Peut-être ça, le plafonnement des loyers, la solution. Voilà, une salle de bain pour 3 apparts.
Ouais.
Et puis, ouais. Okay. Et l'immeuble, tu fais de la courte durée ou tu fais de la longue durée dedans?
Ben écoute, on va l'exploiter en courte durée. Je dis on va parce que là, on est sur la fin des travaux sur cet immeuble que j'appelle le bébé immeuble, qui est connu sous ce nom-là puisque c'est un immeuble de 2 lots qui est tout petit. Et oui, on va l'exploiter en location courte durée. Donc, j'ai encore pas fait ce type de location. Donc là, ça y est, je vais pouvoir partager les mêmes problématiques que toi.
Ah ouais. Ouais, les joies de la courte durée. Il y en a plein. Hein. On a tout eu. On a eu les prostituées, le gars, le concierge qui nous payait pas, les concierges nuls. Ça coûte beaucoup plus cher encore que les Mac. Et après, bon, on a des très bons concierges, mais c'est pas pour ça que on n'a pas des clients qui sont complètement allumés. Hein. Il y en a toujours. Hein. On avait fait un épisode sur les joies de la courte durée. Donc ouais. Mais bon, après voilà, on n'a rien sans rien. Hein. C'est lié les deux. Et puis quand t'as un immeuble, au moins tu gères la copro.
Ouais, c'est vrai.
Ça c'est le gros avantage. Et du coup, Corinne. Toi, qu'est-ce que t'as comme type d'appartement?
Alors moi j'ai des colocs aussi à Lyon et sur Rouen, des colocs de 4 chambres. J'ai pas fait exprès, mais elles ont toutes 4 chambres.
Ok. Et deux salles de bain. Ouais. Et deux salles.
Soit bah, je pense. De bain, genre deux salles de bain dans les parties communes. Et okay. J'ai aussi donc ça c'est il y a une coloc où c'est comme ça. Et j'ai deux colocs où c'est une salle de bain commune pour trois et une salle de bain privative pour la quatrième chambre. Ça okay. dépend de la configuration en fait, de l'appart, ce que ça permettait de réaliser ou pas.
Et j'ai une bonne question pour vous, c'est comment est-ce que vous gérez les conjoints de vos colocs? C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que vous avez des règles par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont... enfin. Les invités, tout ça, c'est vrai que c'est assez... Moi, j'ai eu une toute petite coloc à un moment, c'était un peu à hasard, puis maintenant, l'appartement, il est loué autrement. Et est-ce que vous avez des règles, vous avez des plaintes par rapport à ça ou des...
Alors, moi, je vais répondre. Déjà, j'ai pas de règles et j'ai pas de plaintes. Clairement, je sais que mes locataires, des fois, reçoivent du monde, mais c'est ponctuel. Et globalement, je pense que si quelqu'un squattait longtemps, je pense que ça remonterait justement, ça se plaindrait. Donc, j'ai pas eu le cas. Par contre, pour la petite histoire, j'ai deux colocataires qui sont partis en même temps, qui ont donné leur préavis en même temps, et je leur ai demandé pourquoi ils partaient. Ils m'ont dit, on emménage ensemble.
Ah, bah ouais, c'est chou.
Agence patrimoniale. Ouais. Mais voilà, donc non, j'ai jamais eu le problème. Je sais que. Enfin. J'avais une discussion avec une personne qui disait, moi, dans mes colocs, je mets des lits une place. Comme ça, j'ai pas le problème. Ah ouais. Sauf que moi, je trouve ça, c'est un anti-location, quoi. Mmh.
Vraiment... Ouais, bah, c'est clair. Déjà, tu partages un appart, ça fait un peu...
Ça fait, je retourne dans ma chambre de mes parents quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc moi, je mets des lits de place. Et par contre, évidemment, j'ai des gens qui me demandent en disant, est-ce qu'on peut louer en couple? Donc là, je dis non. Mais après, j'empêche pas les gens de vivre, tu vois, s'ils veulent ramener leurs copains de temps en temps. Enfin, je sais que des fois, il y a du passage, mais c'est ponctuel. J'ai pas eu de problème.
Ok.
Et toi ? Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je fais surtout attention à la sélection, en fait, des candidats. Et très simplement, les candidats, ils sont assez cool, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont en couple. Souvent, ils ont un chien ou un chat ou quelque chose qui va avec, et ils demandent si ça nous gêne de qu'ils emménagent en couple. Mais le problème, c'est que la coloc, elle est pas faite pour accueillir 15 personnes, les couples, la famille et les cousins et tout ça. Donc moi, je dis non également. Néanmoins, effectivement, on est avec des étudiants, donc moi, quand j'étais étudiante, je vivais en coloc et mon chéri il venait aussi dans ma chambre. Il y a pas de souci. Donc
ouais, faut pas trouver le gars qui abuse, quoi. Mais c'est vrai que
voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que par exemple, quand les couples, des fois ils me disent oui, mais pourquoi vous voulez pas nous, je dis je vous explique, j'ai 4 chambres, donc c'est une coloc, elle est faite pour 4, et en termes de consommation d'énergie et en termes de vaisselle et en termes de dimensionnement de salle de bain, maintenant si vous venez en couple et puis que l'autre en couple, je dis en fait on se retrouve à 8 au lieu de 4.
Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais. Et ouais, puis des appartements, ouais, ça m'est déjà arrivé, des appartements, par exemple des T2, où on me dit, en fait, t'arrives pas trop à savoir quand les gens ils visitent si c'est un couple ou pas, quoi. Donc c'est vrai que parfois t'es un peu gêné, parce que moi j'ai des appartes, voilà, s'il y a qu'une chambre, j'ai pas envie, et un salon ouvert sur la cuisine, je me dis pour un couple ça va, mais pour des gens tout seuls, ils vont pas partager la chambre, enfin. Alors parfois t'es un peu gêné, quoi. Tu te dis
tu
bon.
Peux poser la question, hein.
Ouais, je leur demande en général, je leur demande. Alors après, faut savoir mettre les manières. Parfois tu sais pas si c'est si déjà c'est deux filles. Alors bon, tu vas leur demander. Après ça peut être sa sœur ou des trucs comme ça. Ça crée un peu des malaises. Mais bon, vaut mieux ça que. Et puis une fois j'en ai eu. Et je suis sûr qu'ils se foutaient de moi. C'était dans une ville où c'était super cher, les loyers. J'étais content d'avoir un appartement là-dedans. Et c'était soi-disant un couple, mais ils avaient 30 ans d'écart. Le gars, il buvait de la bière, de la 8-6, comme ça, en m'attendant en bas, en fumant. Et puis, en plus, il travaillait à, je sais pas, une heure de là. Enfin, c'était, il y avait rien qui était cohérent, quoi. Ils m'ont dit, ouais, on est en couple. Mais je suis sûr que c'était trop cher pour eux de se loger. Et puis, ils avaient trouvé ça comme solution.
Okay. J'ai le problème, moi, donc j'ai des apparts aussi à la frontière suisse et j'ai notamment un studio. Et à l'époque, je l'avais mis en gestion. Et du coup, l'agent IMO, d'habitude, me demandait mon avis sur les dossiers. Et ok, pas de souci. Et là, en fait, j'étais à l'étranger, enfin, je sais pas. Et je reviens et elle me dit « Ah, bah, j'ai mis les locataires en place. » Je dis « Ok, très bien, vas-y, envoie-moi les dossiers. » Et là, je vois deux nanas. Et j'ai dit « Mais c'est un studio. » Un studio avec un canapé lit, quoi, tu vois. Mmh. Enfin, c'était location nue, mais bon, enfin, peu importe. Y a quelque chose. Et du coup, je dis « Ben, elles sont sœurs ?»« Non. » »« C'est un couple ?»« Non. » Je dis donc, tu es en train de me dire que tu as pris deux femmes qui n'ont aucun lien dans un studio. Je dis, ça va commencer, comment ça va se passer au niveau du couchage, quoi, tu vois. Mmh. Je sais pas, je débrouille et tout, machin. Résultat, j'ai eu beaucoup de soucis avec ces deux locataires et j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'elles partent. Et j'ai repris la gestion de l'appartement après. Mmh.
Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'avais aussi un studio que j'avais mis en agence. Et puis, je sais pas s'il aurait pu le voir ou pas, le gars, mais en tout cas, bon. En fait, ça puait dans l'appart. C'était un boucher. Alors, je sais pas si ça avait un lien. Je sais pas s'il ramenait des trucs. J'ai eu des lettres du syndic. Et après, en fait, j'ai donné, j'avais un gestionnaire et le gestionnaire, il m'a dit, ouais, mais en fait, le gars, il fait un peu flipper. Moi, j'y vais, mais, donc, tu vois, ça m'est arrivé. Et une fois, j'ai eu un gars, alors, faut pas faire de discrimination, bien entendu, mais c'était soi-disant un grec. Il avait des papiers grecs, mais c'était plutôt un russe qui m'expliquait qu'il était chauffeur d'un homme d'affaires russe, qu'il était payé en cash et que sinon il était videur de boîte de nuit. Et genre son point, il faisait la taille de ma tête. Je dis mais lui, jamais je peux le sortir s'il paye pas, quoi. Donc voilà, j'avais pris une autre locataire. Si ça se trouve, il aurait payé, tu serais bien passé, mais bon, ouais, puis toi t'es comme un idiot, qu'est-ce que tu vas faire avec du cash, enfin bon. ok top. Et toi, Corinne, tu fais de la location courte durée?
Non, okay. Moi je fais de la location nue, location meublée et colocation meublée.
Ok. Et les nues, tu les as en société?
Non.
Tu les as. T'as fait des travaux?
Non, c'était. Alors ça, c'est mes tout premiers investissements, les non rentables.
Ok.
La défisque, c'était un cellier.
Ok. Bah, au moins, t'as quand même un avantage fiscal,
oui,
je pense.
Oui, un avantage fiscal, et puis, il y a la frontière suisse, donc, parce que, enfin, voilà. Défisque, enfin, j'encourage.
C'est ça, il y a de la défisque dans des villes à 1000 euros le mètre carré, il y a de la défisque dans des villes à.
Tu perds de l'argent au moment où tu revends. Là, moi, je sais que l'appartement, il a pris pas mal de valeur, et puis surtout, enfin, j'en ai un autre aussi en défisque que j'ai sorti du dispositif après le nombre d'années nécessaires. Enfin, j'ai respecté le délai, c'était 6 ans, c'était un Pinel. Et du coup, je suis passée d'un loyer plafonné à un loyer cohérent avec la zone géographique et je suis passée d'un cash flow négatif à un cash flow positif.
Ok. Donc comme quoi, il y a moyen de. Mais après, c'est comme tout, hein, la défisque. C'est juste qu'après, tu as beaucoup d'intermédiaires et donc, en général.
C'est ça. Ils prennent leur. Par contre, tu es obligé de le louer en nu pendant la durée imposée par les. Enfin, le CDI à l'époque, c'était 9 ans et donc pendant 9 ans, tu dois le louer en nu.
Ok. Et après, tu les gardes. Bah, c'est vrai que c'est aussi ça, le problème qu'on dit souvent au Pinel, c'est qu'après, tout le monde les vend. Donc, ouais. Ça fait une concurrence au sein de la copro. Ouais. Si tu les gardes, si tu changes l'exploitation et tout, c'est...
Ah, je me suis posé la question, très honnêtement, d'arbitrer en disant, OK, est-ce que je le vends parce qu'il avait déjà pris de la valeur. Donc, Et après, j'ai dit, attends, on va faire le calcul au niveau cash flow. Enfin, je peux partager les chiffres, hein, je m'en fous. Le loyer plafonné était à 800 euros et je suis passé à 1300 euros de loyer.
Ah ouais.
Frontière suisse.
Ouais.
Donc, du coup, pas dégueulasse. Du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, on va le meubler, on va le faire joli. Et puis, voilà.
Et puis, les Suisses, en ce moment, hein, ils sont bien avec le franc suisse. Moi, je connais pas mal de frontaliers ou de Suisses qui travaillent en Suisse. On a des auditeurs en Suisse. Bah, là, le franc suisse, il est bien. On est... Donc, voilà. On n'a pas de scrupules pour les 1300 euros de loyer.
Oui.
Ah, bah, top. Mais je vais faire un épisode avec des gens qui travaillent en Suisse. Je pense que c'est un bon... tu vois, si c'était à refaire, je pense que si tu pars de zéro, c'est vraiment un bon moyen. Et je connais beaucoup de gens qui s'en sont bien sortis, qui n'ont pas fait d'études en commençant en Suisse.
La vie,
elle est chère, mais bon, les payes, elles sont
quand
même...
C'est quoi, c'est 3500 euros le SMIC, non?
Ouais, et t'en as, ils gagnent beaucoup plus que ça. Hein. Ouais.
C'est quasiment 3 fois plus de mémoire. Ouais. Le moindre salaire, c'est genre 4000 francs suisses, tu vois.
C'est clair que ça permet de bien démarrer dans la vie.
Voilà, et puis c'est toujours pareil, si t'épargnes 20%, bah autant que ce soit 20% d'un gros montant de tes revenus.
Yes.
Après, il y a des points négatifs en Suisse, hein, bien sûr, hein, mais, euh, mais il y a pas la mer. Il y a pas la mer, mais il y a des lacs. mais ouais, c'est en tout cas voilà, c'est je pense pour démarrer quand on a faim, c'est un bon moyen si vous n'avez pas trouvé de.
Ouais.
Même mon grand-père, ma grand-mère, elle m'a dit qu'il donnait des cours en Suisse il y a 50 ans ou 60 ans, au lieu de faire ses vacances, ils allaient donner des cours en Suisse. C'est pour ça que maintenant, j'ai une vie de nanti, quasiment. Voilà. OK, top. Et je voudrais parler, on en a vite fait parlé en off, vous avez des biens avec vos conjoints.
Oui.
Comment ça se passe? Comment vous répartissez les tâches? Qui fait quoi? Voilà.
Ouais. Notre fonctionnement avec mon conjoint Olivier, c'est le suivant, donc c'est toujours le même. Donc moi, je chasse les biens, parce que j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien rencontrer les agents immobiliers, j'adore le réseau, j'adore discuter avec des gens que je connais pas, moi ça me gêne pas du tout, j'aime beaucoup ça. Donc c'est moi qui chasse, hein. Derrière, c'est souvent moi qui trouve les contacts pros, en fait, du style les personnes qui font les travaux, ou les décorateurs, etc., parce que je me sers beaucoup de mon réseau, ouais. En fait, pour ça. Et ensuite, derrière, pour la recherche de financement, on fait ça ensemble. Donc systématiquement, on va voir les banquiers ensemble. Donc ça fonctionne bien, puisque bon, forcément, vu qu'on investit à deux et qu'on est les deux présents, ça fonctionne bien. Et puis derrière, par contre, c'est lui qui s'occupe de la gestion des travaux, parce que c'est pas mon dada. Moi, je suis plutôt sur la phase en amont du projet, en fait. Et après, la gestion au démarrage. Donc, c'était moi qui la faisais. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il était un peu plus carré que moi. Et donc, du coup, c'est lui qui a pris la gestion. Et puis, à terme, ce sera lui qui gérera l'ensemble du parc immobilier. Il se rémunérera avec le parc. Voilà.
OK.
C'est assez clair.
C'est ça, c'est bien d'avoir un... C'est un peu le good cop, bad cop, là, parfois, avec l'artisan. C'est vrai que c'est assez... C'est très bien d'avoir ça et d'avoir quelqu'un qui est exigeant. Après, toi, parfois, derrière, tu peux un tout petit peu arrondir et au final, tu as un truc qui est bien, puis tu as un artisan qui est bien. Et puis,
ouais, tout à fait. Ouais. Puis même en termes de gestion des locataires, tu vois, quand il y a des problématiques, c'est plus moi qui vais y aller pour la discussion, pour les... Voilà, pour, comment dire, l'aspect relationnel humain. Par contre, effectivement, pour la gestion derrière, entrée, sortie... Bon, c'est quand même moi qui fais la vérification des loyers. je me suis pris quand même la vérification des loyers, tu sais, pour être sûr que ça rentre. Mais sinon, c'est bien lui le pilier de la gestion, je dirais. Voilà.
Ok. Ah, bah, super intéressant.
Moi, c'est... Alors, les apparts que j'ai toute seule, bah, je les gère toute seule. Alors, non, c'est pas vrai. Parce que mon chéri est très bricoleur. Donc, du coup, les apparts que j'ai toute seule, il met quand même la main à la pâte pour m'aider parce que des fois, il y a des petites choses à faire. Pas les gros travaux, là, on prend des entreprises, mais des petits trucs, tu vois, d'entretien. Là, c'est lui, il adore ça, donc il m'aide là-dessus. Et après, les biens qu'on a ensemble, alors grosso modo, la recherche, c'était plutôt moi. Alors, j'étais chasseur immobilier pendant une période, donc ça aidait aussi pour trouver les biens. Donc la recherche c'était moi. Il y a même un bien où je l'ai un peu harcelé pour qu'il vienne visiter parce qu'il m'a dit ah oh, c'est bon de la visiter, je te fais confiance. Je fais non, tu viens le voir quand même avant la signature s'il te plaît. Donc il me fait confiance. Et puis les premiers biens c'est plutôt moi qui poussais si tu veux, qui voulais vraiment investir dans des biens rentables. Après la partie dossier bancaire clairement c'est moi. Toute la partie paperasse c'est moi. Monter le dossier. La présentation au rendez-vous bancaire, c'est pareil, on y va à deux, mais c'est plutôt moi qui lead aussi. Après, la partie travaux, ça va plutôt être lui. Encore, ça dépend, parce que enfin, moi, j'étais aussi beaucoup dans les travaux, donc on n'a pas la manière de... On ne voit pas les mêmes choses, en fait. Donc, on est assez complémentaires au niveau des travaux. Ça, et après, la gestion locative, au départ, ça a été essentiellement moi, mais plus sur la partie... Enfin, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, inventaire, tout ça, ça le saoule, mon chéri, donc moi, je le fais. Par contre, sur la partie plus relationnelle, eh ben, un peu comme toi, c'est plus lui qui va intervenir. J'ai tendance à perdre patience plus rapidement que lui et à être moins dans la discussion, dans l'échange que lui. Et toute la partie après gestion financière, administrative, c'est moi.
Qui envoie les factures à l'expert comptable et tout.
Et là, par contre, non, en ce moment, on cherche un immeuble et c'est plutôt lui qui est sur la recherche immobilière.
Ok. Bah, c'est vrai que quand tu es à deux, ça, c'est bien, tu es toujours en mouvement. Hein. Moi, ouais. On a acheté beaucoup d'appartements avec mon associé comme ça. Parce que c'est vrai que c'est comme tout, c'est comme quand tu joues au tennis ou quoi, parfois il y en a un, il a la flemme, et puis tu y vas quand même, et puis parfois, ouais. Et puis t'as l'autre, puis il y en a qui ont du temps, parfois moins de temps, donc...
C'est pour ça
que c'est bien d'investir en couple et d'avoir quelqu'un qui suit. Après, le seul risque que je vois, c'est comme dans tout dans la vie, parfois, vu que t'es deux, tu crois que l'autre a contrôlé un truc, et en fait, tu le fais pas. Et nous, ça nous est arrivé une fois, on signait un compromis. En fait, l'agent immobilier nous avait menti sur les charges. Et en fait, quand j'ai, les compromis, vous connaissez, hein, c'est super long. Et en gros, le prêt est à dater, il est tout en bas après les diagnostics et tout. Donc, c'est la page 150. Et à 21h, je m'en suis rendu compte, que c'était, au lieu de 150 par mois, c'était 300 par mois dans l'appartement. Donc, ça allait pas. Et heureusement, ça se trouve, mon associé l'aurait aussi vu. Mais tu vois, c'est un peu un truc. Il est 9h, tu te dis, lui, il a déjà lu. Et en fait, ça se trouve, il se dit la même chose. Moi, j'ai lu le compromis, j'ai les diacs, j'ai regardé les résumés. Et puis, c'est vrai que c'est toujours bien de quand même faire les choses carrées quand t'es à deux, hein, et de tout faire. Mais après, parfois, il y a des inefficacités, des inefficiences. Hein, donc c'est comme ça. Mais c'est une belle aventure à partager à deux.
Il y a des fois, il y a des ah, mais je croyais que c'était toi qui
faisais. Ah ouais,
Il faut le temps de se cadrer aussi au début.
Puis de voir où t'es bon et où t'es pas bon aussi.
Ouais.
Quoi.
Que ce soit d'ailleurs avec ton conjoint, si c'est ton conjoint, ton associé, ou un ton autre associé en
autre.
Fait. Il faut le temps de se découvrir, de voir les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir ensuite se dire, ok, toi, tu fais plutôt ça et moi, je fais plutôt ça.
Ah, c'est ça. Nous, on est en train là de, juste au moment où je vous parle, on est en train de vraiment un peu structurer. Là, j'ai décidé qu'on fasse une fiche par appart. C'est tout bête, mais quel étage il est, quelle porte c'est, la personne de contact du syndic, le locataire. On a des garages, et du coup les garages, parfois ça se tout, enfin le numéro, enfin en fait moi souvent les garages je les loue en mettant une pancarte sur l'immeuble, donc tu retrouves plus sur le bon coin les contacts, t'oublies les SMS et tout, donc et au début tu crois que tu t'en rappelles, t'as un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, puis en fait au bout d'un moment t'oublies, hein, franchement au bout de même mes locataires, au bout de 2-3 ans, tu les reconnais pas, hein. Franchement, je sais pas. Donc voilà. Et je répète, je rebondis juste sur votre coloc en couple. Moi, je dis toujours de prendre des gens moches, parce que ça marche mieux. Ils ont moins de risques de se mettre en couple. Après, il y en a quand même qui trouvent, hein. Faut faire gaffe. Mais voilà. Les moches restent plus longtemps. donc voilà. Ok, top. Si vous voulez, on peut juste switcher sur vos activités dans l'infoprenariat, du coup, à toutes les deux. Hein. Peut-être comment vous êtes formés à ce sujet, et puis un peu décrire vos activités. Si tu veux, on peut commencer par le closing.
Ouais, comme ça. Le closing, en fait, c'est tout con. Enfin, j'avais jamais pensé faire cette activité. Hein. C'est juste que...
Donc on peut peut-être présenter le closing, c'est en gros faire un peu la
le closing, en fait, si tu veux, c'est être commercial pour des infopreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prospects sont apportés par un tunnel de vente qui est réalisé par l'entrepreneur, enfin l'infopreneur, et toi tu es en
dernière ligne un peu,
en dernière ligne, tu reçois les prospects, je dirais tièdes, voilà, et tu prends contact avec eux et ensuite tu les orientes sur telle ou telle formation en fonction de leur profil, voilà.
Okay.
Ça, c'est le métier du closing. J'y étais pas du tout destinée. Après, j'ai quand même un profil de commercial quand même à la base, mais j'étais pas destinée à ça. Moi, je voulais monter une boîte, je savais pas dans quoi. Puis à l'époque, j'avais un infopreneur qu'on connaissait toutes les deux en commun. Avec Coco qui s'appelle Yoni, le marchand de biens. Et en fait, il était tout seul dans sa boîte. Il n'arrivait plus à tout gérer. Il m'a dit, vas-y, aide-moi. J'ai dit, oui, moi, je veux bien. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, traite les mails. Donc, j'ai commencé comme ça à traiter les mails. Et puis après, de fil en aiguille, on a structuré la boîte. Et donc maintenant, j'ai cette mission d'orientation des clients. Voilà.
Ok, top. Et ça te prend combien de temps?
2 jours.
2 jours par semaine? Ok, ouais, c'est quand même prenant, quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup de prospects. Hein.
Ouais, tout à fait, ouais. 2 jours par semaine et 2 jours par semaine sur Investir comme elle, avec Coco.
Ok. Et vos élèves, comment vous les appelez? Vos élèves, vos... vos pépites.
Nos membres.
Vos membres. Vous les suivez comment? C'est à quel rythme? C'est,
Alors, on les suit en coaching personnalisé, donc en visio, parce qu'en général, ils viennent un petit peu de partout en France. Et on les suit à un rythme d'une fois par mois pour suivre l'investissement pendant 6 mois, en fait. Si tu veux, on fait un coaching mensuel pendant 6 mois.
Voilà. Ok. Et on a donc, du...
Et oui, on a des coachs. Alors oui, j'ai pas précisé, effectivement. On fait pas que ça.
Non.
On a aussi un coaching de groupe par mois et une masterclass avec un expert par mois. Donc, okay. Ça, c'est pour la montée en compétences. Ouais. Et après, nous, on va les titiller sur les freins personnels en one-one, quoi.
Ok. Ah, super. Très intéressant. Et vous faites, du coup, la zone de recherche. Enfin, vous commencez vraiment de zéro, quoi. De la zone de recherche jusqu'à la signature.
On commence sur le mindset et la préparation des finances.
Okay.
Commencer la recherche IMO, en fait.
Bah ouais, parce que si on est endetté jusqu'au cou, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que nous, on a eu des prospects, c'est la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous pouvez vous endetter, parce que sinon...
Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est la première question qu'on pose, et on va même plus loin que ça, c'est qu'on se dit, OK, pour quelqu'un qui a des finances, est-ce qu'il sait les gérer correctement? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une épargne, tu vois, déjà? Parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, hein, clairement, donc... Ce que tu épargnes, déjà, tout simplement. Et puis ensuite, après, la vision de l'investissement, tu sais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un emprunt? On commence vraiment depuis la base, hein, franchement. Voilà.
OK. OK. Et toi, Corinne, du coup, ton activité, comment ça t'est venu?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a un an et demi...
Parce que ça, on ne fait pas d'études hein, pour...
En gros, si tu veux, fin 2021, j'en avais marre de mon activité de gestion de projet tertiaire. Ça faisait 15 ans que je faisais ça, mais je savais pas trop quoi faire d'autre. Et en fait, on avait rejoint un incubateur, donc un programme d'accompagnement pour nous, pour développer Investir comme elle. Et dans cet incubateur, on a découvert le principe des profils visionnaires et intégrateurs. Et le profil de visionnaire, c'est un entrepreneur qui a plutôt la vision, donc du coup beaucoup d'idées à la seconde, mais qui du coup à un moment part dans tous les sens. Je fais des schémas, hein, c'est très résumé, mais voilà.
Et non, mais c'est intéressant. Ça, c'est un visionnaire.
Ouais, t'appelles ça. Plutôt visionnaire. Donc, c'est quelqu'un qui va être ultra moteur, qui va avoir plein d'idées, donc qui va être très novateur, mais qui par contre peut s'éparpiller, enfin... Souvent, s'éparpille et part un peu dans tous les sens. Et le profil intégrateur est plutôt quelqu'un qui va être doué pour organiser, structurer et mettre en place quelque part les idées du visionnaire. Et du coup, c'est un duo qui fonctionne très bien. Et en rejoignant cet incubateur, on nous a dit « Ah, mais vous avez trouvé, vous êtes trouvé en fait. » Donc, Mélanie est plutôt visionnaire et moi, je suis plutôt intégrateur. D'accord ? Et en fait, dans l'incubateur, il y avait…
Comme pour les biens. Mélanie, elle trouve les biens et après son mari, il fait.
Exactement ça, en fait.
Et si tu veux, dans cet incubateur, en fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs. La majorité, peut-être 90%, c'était des visionnaires qui avaient besoin de profils comme le mien. C'est-à-dire que le visionnaire va être plutôt sur le why, sur le pourquoi. Et moi, je suis plus sur le comment. Comment on fait? OK, mais concrètement, du coup, comment tu fais là pour mettre en place les choses? Et en fait, du coup, j'ai rencontré mes clients un petit peu comme ça, avec d'autres infopreneurs qui cherchaient leur intégrateur. Et donc, je suis devenue consultante comme ça, voilà, pour eux. Et quelque part, c'est quelque chose qui avait du sens parce que comme j'étais directrice d'agence pendant 10 ans, en fait, je faisais de la gestion d'équipe, des plannings, des budgets, je gérais un centre de profit complet, mais j'avais jamais mis ce mot là-dessus, tu vois, ce terme, ça me parlait pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais directrice d'agence, je faisais tout le développement commercial et je n'aimais pas ça. Mais j'étais obligée de le faire. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, tu fais pas le développement commercial, c'est pas ta partie, et ça, c'est cool.
C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des appétences pour un truc ou pour l'autre, et on dit... Mais qu'en fait, la vente, en tout cas, si t'es tout seul, t'es quand même obligé de, tu peux être les meilleurs écrivains du monde. Si tu sais pas te vendre, en fait, tu vends rien, quoi.
Si tu sais pas te vendre ou si tu trouves pas quelqu'un
qui le fait pour toi,
voilà. Si toi, vraiment, ça passe pas, ouais.
J'ai regardé, il y a un reportage sur Wirecard, là. Je sais pas si vous avez suivi le scandale d'une boîte allemande qui a brûlé 2 milliards d'euros. En fait, c'était, ils étaient plus gros que la Deutsche Bank à un moment en capitalisation, alors que c'était une start-up en gros. Et en fait, ils avaient, c'était ça, t'avais un gars qui avait l'idée banque et ils ont trouvé, mais en fait, le gars qui allait trop loin, quoi, le commercial, visieux, enfin, qui a survendu le truc. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il a vraiment, bon, il y avait carrément des magouilles, payer des journalistes et tout. Mais tu vois, où en fait, peut-être que justement, il y avait une dissonance entre, le gars un peu carré et puis l'autre qui a eu des ambitions jusqu'en, parce qu'en fait faut suivre aussi hein. Si t'as un gars qui vend trop ou qui vend pas assez, faut aussi une sorte de cohérence quoi.
Donc, ouais, faut être certain, je pense, pour l'intégrateur le challenge c'est aussi de se dire ok, est-ce que ce qu'il a vendu on est en capacité de le produire aussi, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va livrer au client derrière quoi.
Ouais, c'est ça, donc et du coup, c'est pour des infopreneurs. Tu recrutes quel type de tu le sais, je pense qu'ils ont des prestataires plutôt. Ils n'ont pas vraiment des.
Alors, enfin, il y a les deux. J'ai bossé avec des infopreneurs qui travaillaient qu'avec des prestataires. Parce que le passage de recruter des salariés, c'est encore un autre step, si tu veux. Mmh. Mais j'ai aussi bossé avec des gens qui avaient déjà des salariés. Où là, t'as la gestion, enfin, le management, on va dire, n'est quand même pas le même entre personnes salariées et prestataires. Parce que, en plus, salarié, en général, c'est des temps pleins. Prestataire, c'est tu gères un nombre d'heures par semaine par prestataire. Donc, c'est pas la même approche. Ouais.
Et c'est quoi comme prof? Enfin, ils font quel métier? C'est des graphistes, des financiers? Non, les personnes que tu recrutes, enfin, les prestataires. Des monteurs.
Monteurs vidéo, community manager, copywriter, assistante administrative, assistante tout. En fait, assistante, je fais tout.
La geek de l'équipe ou le geek.
Ouais, voilà. Ouais, le prestataire informatique qui va aussi gérer les outils type, je sais pas, Systemio, Kajabi, tu vois, un expert technique. Ça peut être aussi
closer,
responsable relation presse, ça peut être commercial, enfin, tous les profils en fait. Et puis des personnes chefs de projet aussi qui font de la production de dossiers.
Ok. Et toi, tu fais quel process de ça? Enfin, par exemple, parce qu'il y a des choses où tu as les compétences, je suppose, et il y en a où tu les as clairement pas. Donc, toi, tu trouves les prospects, tu leur fais faire des petits projets, comment tu...
Oui, en fait, il y a un process de recrutement qui est un peu toujours le même. Là où, par contre, j'ai besoin d'aide, des fois, c'est pour la fiche de poste. Parce que la fiche de poste, métier de copywriter, par exemple, tu vois, la première fois que j'ai fait une fiche de poste...
Donc, un copywriter, c'est quelqu'un qui écrit des pages de vente.
Ouais, page de vente, ça peut être aussi newsletter, ça peut être même les posts du community manager. Le community manager peut faire par exemple son planning éditorial et faire les visuels, mais ne pas faire le texte, tu vois. Enfin, ça dépend pareil d'une personne à l'autre. Et après, sinon, c'est le process de recrutement avec différents entretiens pour pouvoir sélectionner la personne. Ça reste, si tu veux, le même principe que ce que je faisais quand j'étais directrice d'agence, sauf que tout se fait par Zoom, en ligne, il n'y a pas de rencontre physique, quoi. Okay. Ça reste un peu le même métier.
Ok, top. En tout cas, on voit que c'est un bon moyen que toutes les deux vous avez trouvé, en fait, en peu de temps. Enfin, il y a des gens, ils veulent se lancer dans leur société, et puis en fait, tu vois, en fait, là, c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais hier, j'ai vu une conférence d'une femme astronaute, Claudie Aignorel, ça s'appelle, c'était la première astronaute européenne. Et en fait, après, elle a été ministre, au Palais de la Science et des Découvertes. Enfin, elle a eu plein d'activités. Et je me suis dit, en fait, elle a fait d'abord un truc astronaute. Et de là, il y a eu plein de jobs qui ont découlé de ça. Et en fait, on voit, c'est vrai, quand on est investisseur, vous êtes pas les premières. Alors, vous êtes les premières qui font ces activités, mais il y en a plein qui ont trouvé des activités en achetant des appartements. Et après, soit t'en cherches, soit tu fais de la, tu recherches des biens pour d'autres gens. Quand t'es trop endetté, tu fais de la sous-loc, tu fais de la conciergerie, tu fais
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, on le retrouve aussi dans nos membres. C'est que souvent, en fait, les gens ont envie de démarrer dans l'investissement immobilier. Tu comprends la musique, donc t'enchaînes rapidement, en fait. Tu te dis, OK, vas-y, je passe sur le deuxième, le troisième, etc. Et après, dans ton esprit, tu te dis, OK, je choisis soit d'avoir un gros patrimoine pour potentiellement me rémunérer avec, soit je commence à développer des activités entrepreneuriales. Et en fait, ça va de pair systématiquement.
Ouais. Dans un sens, enfin, d'abord entreprendre après investir, ou investir après entreprendre, mais dans un sens comme dans l'autre, ça, souvent, c'est lié. Et nous, on considère que l'investissement immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est une forme d'entrepreneuriat.
Mmh. Ah, bien sûr.
Mais ça reste une gestion de projet de A à Z. Et,
c'est ça, t'as une gestion de projet, l'objectif, c'est de faire de l'argent. Voilà, c'est... Mmh. Ouais, c'est
tu gères des gens, tu maîtrises tes coûts, tu... Voilà.
C'est ça, l'optimisation.
Essaye de louer le plus cher possible.
Pour faire des gros billets, comme tu dis.
Voilà, pour faire des gros billets. Non, c'est top. Et puis moi, je fais des podcasts. Hein. J'ai pas acheté des apparts avec l'idée de faire des podcasts au début. Hein. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'ai des questions de fin.
Okay.
Je sais pas si vous vouliez rajouter un truc. En général, quand je pose cette question, les gens ils disent non. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'essaie de changer de tente.
Okay.
Est-ce que qu'est-ce qui fait là pour vous deux qui fait que votre business vous êtes qui fonctionne et que vous êtes dans ces business là en ligne du coup de closing et de intégrateur, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, en quoi on peut être bon ou moins bon, qu'est-ce que si t'arrives à faire un truc ça marchera bien et sinon non?
C'est une très bonne question. Moi je dirais déjà la passion.
En fait,
il faut que tu kiffes ce que tu fais, hein, parce que sinon tu le fais mal et puis tu tiens pas sur la durée.
Ouais.
Donc, moi je dirais ça déjà en priorité. Après, si t'aimes quelque chose et que t'es pas formé, tu te formes. Je dirais en deuxième point, c'est la formation. Franchement, avec internet maintenant, tu peux te former sur tout et n'importe quoi, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs. Enfin voilà. Et ouais, c'est ça. Et puis après, faut trouver la mission aussi. De toute façon, in fine, il faut que tu trouves le client. Donc voilà.
Ouais. Moi, j'ajouterais peut-être la zone de génie, en fait.
Oui.
En quoi t'es bon.
En quoi t'es bon.
En quoi t'es bon, parce que du coup, en fait, ce qui te paraît facile, souvent paraît pas facile à d'autres personnes. Je le vois avec Mel, moi, j'adore Excel, c'est tellement facile pour moi. Et je vois Mel, elle est allergique à Excel et je comprends même pas comment c'est possible. Mmh. Et du coup, tout ce qui est tableau, budget, planning, tout ça, ça la saoule.
Ouais, ça me saoule en fait.
Et moi, ça me demande aucun effort. Donc, je pense que c'est intéressant hein, de s'orienter vers sa zone de génie plutôt que se forcer à faire un truc que t'aimes pas et où t'es pas bon et où tu t'éclates pas. Enfin, ça rejoint le kiff, quoi.
Et après, je vais même peut-être partager une petite pépite, c'est que en fait, il faut te rémunérer cher là où t'es super bon. Et c'est très difficile parce que là où t'es super bon,
ça te paraît facile
et tu te dis tout le monde peut le faire, jamais personne va me payer pour ça. Et en fait c'est vraiment ça le switch à faire dans ton cerveau, à te dire OK, ça c'est hyper facile pour moi, donc faut que je me fasse payer très très cher.
C'est un très bon point. C'est vrai que quand on le tourne dans ce sens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des scrupules à moi. Je fais ma petite pub, je suis sur mon podcast. Vu que j'ai une formation sur comment négocier des appartements, c'est vrai que j'ai fait des offres un peu massacrées, j'ai gagné des dizaines de milliers d'euros sur des biens. Au final, c'est des dizaines de milliers d'euros. Après, moi, je voulais, mes auditeurs, je les adore, je voulais pas les saigner. Mais c'est toujours aussi ça peut paraître simple d'envoyer une offre qui est basse et ça va peut-être te prendre 30 minutes de réflexion sur les points que tu vas utiliser pour appuyer ton offre. Mais après, tu peux gagner énormément d'argent. Donc, faut pricer le truc, c'est jamais évident. Souvent on fait ça avec des gens qu'on aime, enfin mine de rien, je pense que c'est comme vous avec vos coachés, vous les appréciez beaucoup et puis du coup, il faut toujours trouver
amis, mais bon la fille, tu sais. Bien sûr, je les aime, heureusement, on ferait pas ça sinon franchement.
Donc c'est un sacré équilibre à trouver et c'est vrai qu'avoir avoir une compétence. Moi, c'est vrai que je calcule super vite de tête. Enfin, souvent, je suis dans les biens et tout. Je calcule vite. Et c'est un point qui m'est super utile dans plein de domaines, mais dans d'autres domaines qui le seraient pas du tout. Et puis, les gens qui arrivent pas à calculer, je vois que c'est compliqué pour eux tout est plus compliqué.
C'est ça, ouais.
Après, il y a d'autres trucs. par exemple.
Enfin, je peux te partager un truc. J'ai réussi à identifier qu'un des points forts, c'était d'avoir une vision globale. Et en fait, ça me paraissait juste banal en me disant, mais tout le monde a la vision globale, en fait. Enfin, je vois pas en quoi c'est quelque chose de... C'est un atout, quoi, tu vois. Mmh. Et en travaillant avec plusieurs infopreneurs différents, j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde et que c'était justement un véritable atout, mais dont j'avais absolument pas conscience, tu vois. Pour moi, tout le monde raisonnait comme moi.
Ouais, ouais, bah en fait, non. Comme, et vu que vous êtes, j'ai deux femmes, visiblement, j'ai lu, et moi, je suis sûr de ça. Vous le savez peut-être pas parce que je l'ai appris à quelqu'un récemment. En fait, que les femmes, elles ont une vue, la vue vraiment plus large que les hommes. Et que les hommes, ils ont plutôt une vue focus, on va dire. Et ça fait que, bah, par exemple, parfois, il y a des embrouilles de couple parce que l'homme, il trouve pas un truc dans le frigo ou dans un tiroir. Et visiblement, c'est la biologie qui est faite comme ça. Et si vous voyez une belle fille dans la rue, votre femme l'a vue bien avant vous. Donc, faites pas genre de pas l'avoir vue parce qu'elle l'aura vue bien, bien avant. OK. Bah, je pense que c'était vraiment un bon point sur justement ces atouts qu'il faut vraiment. Il y a un bon livre que j'ai jamais lu, Strength Finder, là, que tout le monde recommande. En fait, c'est l'inverse de l'école. À l'école, c'est plus simple d'avoir
Strength Finder, oui. Soit avec les 5, soit avec les 34. Ouais. Il y a un bouquin aussi.
Ouais, il y a un bouquin de que j'ai jamais lu d'ailleurs.
Parce que nous, on a fait le test justement en ligne. Pour, ouais, en ligne pour connaître tes 5 forces. Et c'est intéressant aussi d'aller voir le il y a 34 compétences et d'aller voir la dernière parce que c'est là où t'es le plus nul. Du coup, c'est intéressant aussi de savoir ça. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Et nous, on est pareil, on est ultra complémentaires.
Ouais. Ça, c'est vrai que c'est c'est un bon point de le faire en plus à deux. Comme ça, vous voyez qui peut faire quoi et à qui ça coûte plus qu'à un autre.
C'est ça.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Je trouve que c'est bien et que ça sert à rien de mettre une question standard. J'étais super content de vous avoir. Si on veut vous retrouver,
Investir comme elle sur Instagram.
Sur Insta et sur, vous avez une chaîne YouTube aussi.
Ouais, j'ai vu. Investir comme elle. COMELS.
Voilà. Ouais. comme elle. Et vous avez vu Nathalie, Nat. Oui. Parce que je l'avais sur le podcast et j'avais regardé pour préparer l'entretien, j'avais regardé votre vidéo.
Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup.
Ballarue-Clébin.
Ballarue-Clébin, voilà, capitale mondiale des stations thermales et du cachot.
Ballarue, en fait.
Ouais. Voilà. J'aimerais bien une fois y aller voir, je suis sûr que tout le monde connaît Nat.
Ah, mais ouais, mais c'est la présidente
la maison des lauriers.
voilà. Ok, bah on l'embrasse et bah je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt.
Merci à toi.
Allez, bye bye.
À bientôt, ciao.
Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que Corinne et Mélanie auront su vous inspirer et vous donner des pistes pour vos futurs investissements ou vos futurs projets professionnels. Comme toujours, pensez à partager. L'épisode est fini, vous n'aurez plus aucune valeur là. Vous pouvez partager, vous pouvez mettre pause, partager. Et si vous voulez faire des gros billets, allez sur le site www.grosbillets.com. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 100. Bye bye.